Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une grande bataille annoncée depuis des mois et elle commence demain. Apple lance son service de vidéo à la demande. Dans moins de 2 semaines, ce sera au tour de Disney. Les deux géants, l'un de l'électronique et l'autre du divertissement, se lancent à l'assaut du leader Netflix et autres acteurs engagés dans le secteur de la vidéo à la demande comme Amazon ou même YouTube. L'objectif, c'est de se tailler une part d'un gâteau qui grossit aux dépens notamment des chaînes de télévision traditionnelles qui perdent à la fois de l'audience, notamment chez les jeunes, et des revenus publicitaires. Le streaming va-t-il définitivement tuer la télévision traditionnelle? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous aujourd'hui. En studio, Nathalie Sonnac, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en charge de l'équipe de travail, du groupe de travail télévision. Et vous êtes aussi professeur d'économie des médias et du numérique à l'université Panthéon Assas. Et par téléphone, Pascal Le Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du cabinet de conseil spécialisé dans les nouveaux médias et la VOD, What's Hot. Est-on à la veille d'un Big Bang de la consommation de contenu vidéo, Nathalie Sonnac?
Oui, je pense que quand même nous sommes véritablement à l'aune aujourd'hui d'un secteur audiovisuel qui explose totalement. Certains estiment un marché en 2024 qui devrait atteindre un milliard d'abonnés dans le monde. On voit bien qu'on a une multiplication depuis 10 ans, 15 ans de façon de consommer de la télévision. Et la DSL, l'Internet, l'IPTV nous permettent d'accéder à des programmes audiovisuels différemment que le poste traditionnel.
Pascal Le Chevalier, c'est un peu une veillée d'armes, là, ces jours de novembre, aux États-Unis notamment.
Oui, c'est une veillée d'armes. C'est presque un galop d'essai aussi, parce qu'on n'a absolument rien vu de ce qui va se passer. Je rappelle qu'on est dans un monde qui est en train de se fibrer également, et que les débits vont être décuplés, et que grâce à ça, la vidéo va être encore plus partout, et donc évidemment, tous ces nouveaux services.
Netflix se dit serein face à l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Ils pensent même pouvoir engranger davantage d'abonnés. Ils sont 100 millions dans le monde jusqu'à présent. C'est une posture, Pascal Le Chevalier?
Non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est regarder comment vont se déployer les nouveaux services qui sont annoncés, que ce soit Apple, Disney, Warner, bientôt Universal, qui ont tous des spécificités, en particulier des spécificités territoriales. Et aujourd'hui, avec ses 158 millions d'abonnés, Netflix a une large avance sur ses nouveaux concurrents.
Nathalie Sonnac, est-ce que Netflix peut craindre ces nouveaux entrants?
On craint toujours de toute manière de nouveaux entrants, des concurrents, surtout qu'en face de lui, ce sont des acteurs extrêmement puissants financièrement, ce sont des acteurs qui sont intégrés verticalement, donc qui essayent d'aller de la production à la distribution. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est le fameux direct to consumer, c'est-à-dire d'avoir accès directement à l'utilisateur, à l'usager, pour pouvoir récupérer ses données. C'est véritablement tout ce modèle économique qui est en train de se mettre en place. En place, je suis assez d'accord avec Pascal Le Chevalier lorsqu'il dit que Netflix a une longueur d'avance, déjà parce que c'est un acteur qui est installé dans le secteur de la télévision, du stock de films, de documentaires. Ils sont extrêmement puissants parce qu'ils sont bien achalandés depuis très longtemps et qu'ils ont su transformer leur modèle d'affaires en passant de la cassette VHS, dont on a l'impression que c'est l'époque des dinosaures, mais c'était encore vrai il y a 15 ans.
Ils l'envoyaient par la poste à l'époque.
Exactement, dans des petites enveloppes rouges, d'où la couleur qui a été conservée pour la marque. Aujourd'hui, ils ont une véritable longueur d'avance. Ça demeure la première plateforme de streaming dans le monde. Effectivement avec 160 millions d'abonnés et ils sont surtout présents dans 90 pays, c'est-à-dire partout dans le monde sauf en Chine.
Alors Pascal Le Chevalier, est-ce que Netflix a un nouvel entrant plus à craindre qu'un autre? Est-ce qu'il y en a qui sont favoris pour s'imposer sur ce marché?
Alors la véritable bataille, comme l'a précisé Nathalie Sonnac, va pas être dans les 189 pays dans lesquels est présent Netflix aujourd'hui, il va falloir attendre un petit peu plus. La vraie bataille qui va commencer demain, c'est sur le territoire américain. Et là, effectivement, Netflix a sans doute quelques soucis à se faire. Malgré son avance, à peu près 60 millions d'abonnés aux États-Unis, Apple, Disney et Warner ont vraiment envie d'en découdre et ils sont en train de mettre tout en œuvre pour détrôner Netflix et créer une nouvelle concurrence. une nouvelle compétition. Et là, on est vraiment au premier jour de ce nouvel état, de ce nouvel univers. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui arrivera en tête parce que ça va encore prendre un peu de temps.
Alors, le nerf de la guerre dans ce secteur de la vidéo à la demande, ce sont les contenus et le renouvellement de ces contenus. Il faut en ajouter perpétuellement pour garder les abonnés qui, on le rappelle, ne sont pas engagés. Ils peuvent s'arrêter d'un mois sur l'autre. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, il faut d'énormes moyens financiers, Nathalie Sonnac. Il va y avoir des dégâts. Il peut y avoir des gros groupes qui laissent leur chemise.
Ouais, vous avez raison. En fait, finalement, on a deux vecteurs qui sont centraux. Le premier, c'est celui du prix. Le second, c'est celui des contenus. Donc, ça va être la guerre au catalogue. Donc, celui qui pourra détenir le stock le plus important de films, de documentaires, d'animations. Et il y a une guerre qui va aussi se livrer sur le genre, c'est-à-dire à savoir est-ce que les plateformes ont intérêt soit à être diversifiées, soit au contraire
à se spécialiser,
soit sur une thématique, soit sur une niche, soit sur un individu. Et effectivement, le second levier sera le prix. Aujourd'hui, il y a une véritable guerre des prix. Hein. Amazon Prime, pour 49 euros par an, vous accédez à un catalogue qui est encore très insuffisant, très large, très, très loin de celui de Netflix, très très loin de celui de Disney. Mais Disney arrive à moins de 7 dollars par mois. Donc on voit bien qu'il ne faut pas non plus que ça soit un prix qui soit trop élevé, puisqu'il risque d'exclure des consommateurs. Mais dans le même temps, c'est celui qui pourra posséder le catalogue le plus important et qui satisfera tous les gens de la même famille qui gagnera.
Pascal Le Chevalier, est-ce que le fait de signer des têtes d'affiche, je pense à Apple qui annonce des séries avec Jennifer Aniston, est-ce que le fait de signer des vraies vedettes, ça compte beaucoup dans l'acte d'abonnement, d'achat?
Ouais, Jennifer Aniston, c'est la petite fille de l'Amérique, donc forcément, c'est un côté extrêmement prégnant pour les Américains. Vous avez vu, elle a fait exploser Instagram la semaine dernière. Donc,
avec une seule photo, elle n'avait pas de compte avant et elle a eu je ne sais combien d'abonnés.
Exactement. Donc, encore une fois, le marché américain est très particulier. Oui, il faut signer des têtes d'affiche. Oui, il faut des grands réalisateurs. D'ailleurs, c'est un des grands reproches qu'on fait à ces nouvelles plateformes D2C, c'est de dire le cinéma a toujours pris le risque de prendre des réalisateurs, des acteurs qui n'étaient pas connus, le temps de les façonner, de leur permettre d'éclore et de devenir des artistes reconnus dans le monde entier. Netflix, sa force, et Disney demain, c'est d'aller signer des têtes d'affiche pour tout de suite faire des blockbusters théoriques, parce que ça passe pas par la salle, mais d'avoir tout de suite un public qui est conquis d'avance pour les transformer en abonnés le plus rapidement possible. Donc c'est un peu cette guerre qui est en train de se dessiner en ce moment.
Nathalie Sonnac, les habitudes de consommation de contenu vidéo, est-ce qu'elles ont déjà largement évolué ou est-ce que finalement, pas tant que ça, ça reste encore un peu marginal ?
Non, ça a beaucoup évolué. Alors l'évolution est différente aux États-Unis et dans les pays européens et même au sein des pays européens. Évidemment, on observe des distinctions fortes. Déjà en France, par exemple, elle a mis un peu plus de temps à décoller tout simplement parce qu'on a l'avantage et la chance d'avoir 27 chaînes de télévision qui sont accessibles gratuitement. On a aussi Canal+, qui bénéficie d'une plateforme, donc Canal Play aujourd'hui, qui a été longtemps en position quasi monopolistique sur le territoire français et qui est extrêmement qualitative en matière de stock. En revanche, ce dont on s'aperçoit, c'est que malheureusement le prix était trop élevé, que le marché s'est largement ouvert et que dès lors la concurrence, notamment en prix, est compliquée.
Il y a déjà plus d'abonnés à Netflix en France que d'abonnés à Canal+, qui est obligé de licencier. Il y a plusieurs centaines de personnes de Canal+ France qui vont partir. Cela aurait été difficile à croire il y a encore 10 ans en arrière. Est-ce qu'il y a eu, Pascal Le Chevalier, un défaut d'anticipation selon vous, notamment de la part de Canal?
Alors, je ne vais pas vous refaire mon histoire personnelle, mais oui, bien sûr. Et je crois que les coupables le savent pertinemment. Les professionnels et les patrons des grands groupes de médias en France, en particulier de chaînes de télévision, sont passés à côté du marché de la SVOD pour une raison extrêmement simple. Il suffit de reprendre la littérature, les déclarations dans la presse de l'époque. Ils n'y ont pas cru. Ils n'y ont pas cru parce qu'il y avait un modèle qui venait d'échouer, qui était TPS, un autre qui était incontournable et en position dominante, qui était Canal. Et derrière, les chaînes en clair étaient absolument obsédées par le fait d'avoir plus de canaux sur la TNT, puisque je vous rappelle qu'il y a eu deux vagues dans la TNT en France, la plus récente étant de quasiment moins de 5 ans. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils avaient tous les yeux rivés sur leur chiffre d'affaires publicitaire, qui, je le rappelle, constitue l'essentiel des recettes des chaînes de télévision en clair. Donc, de se dire qu'on allait faire de la vidéo à la demande par abonnement payante sur Internet, c'était à des années-lumière de leurs préoccupations de l'époque, et donc ils sont passés à côté du marché.
Alors les chaînes de télévision traditionnelles, ou moins d'ailleurs, parce que Canal+, je ne sais pas si on peut appeler ça une chaîne de télévision traditionnelle, Nathalie Sonnac, elles ont déjà perdu des téléspectateurs et des revenus publicitaires. Dans quelle proportion, à quelle vitesse ça va?
Ça va très très vite. Alors il y a plusieurs effets qui se sont cumulés. Déjà, bon, on a une crise économique forte en 2008 qui a eu pour conséquence une véritable baisse des recettes publicitaires. Comme le dit et que le rappelle Pascal Le Chevalier, effectivement, c'est-à-dire que les groupes français étaient vraiment très centrés sur leur propre marché, le marché national, insuffisamment ouvert en fait ouvert à la concurrence, et ont voulu conserver entre guillemets cette rente de situation avec un seul capteur de revenus. Et malheureusement, effectivement, avec une crise des recettes publicitaires, ils ne se sont pas retournés suffisamment vite malgré ce lancement, et j'espère qu'il sera positif, de Salto,
où on parler,
voit effectivement TF1, M6 et France Télévisions qui regroupent leurs forces pour enfin tenter de constituer une plateforme qui pourra, on ne va pas dire lutter contre Netflix, parce qu'évidemment les puissances et les marchés ne sont pas du tout les mêmes, ils ne sont pas égaux. Pour autant, ça permettra aussi de faire exister, en tout cas ce qu'on peut espérer, faire exister un peu plus longtemps des contenus français, qui est quand même une forte appétence par les consommateurs français.
Alors, certains des grands réseaux américains, ceux-là, et vous en avez un peu déjà parlé, Pascal Le Chevalier, appartiennent déjà à ces géants qui lancent des services de vidéo à la demande. Je pense à Warner notamment. Est-ce qu'il y a un risque que les administrateurs, les grands patrons de la Warner, transfèrent les financements de la télévision au streaming?
C'est déjà commencé, parce que quand on voit les sommes qu'ils sont en train d'investir pour lancer ces plateformes de streaming, et je suis désolé, je vais peut-être choquer Nathalie Sonnac, mais quand on parle de 150 millions d'euros pour lancer Salto en France, on parle de 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 milliards pour lancer ces nouvelles plateformes aux États-Unis. Évidemment, avec un rayonnement mondial, alors que Salto, dans un premier temps, aura un rayonnement français. Donc ils ont déjà commencé les arbitrages, et puis il va y avoir des renoncements. Puisque lorsque vous vendez vos films à des chaînes de télévision sur tous les territoires européens, que vous vendez les droits de pay TV à tel autre acteur dans chaque pays, bah forcément, si vous voulez le garder, comme l'a dit Nathalie Sonnac, pour faire du D2C, du direct to consumer, forcément, ça va vous priver par anticipation de recettes futures pour pouvoir exploiter vous-même votre service sur lequel vous avez déjà investi plusieurs milliards de dollars. Donc oui, les arbitrages ont commencé, et c'est un véritable pari. C'est un véritable pivot qu'organisent ces sociétés. Et d'ailleurs, on reconnaît aussi quelque part, avec quelques années de retard, mais en tous les cas, ils sont en train de s'y mettre, le fait de se dire que la SVOD, c'est quelque part la killer application d'Internet pour les 10 prochaines années. Et c'est pour ça que tout le monde y va.
Le projet Salto, dont vous avez commencé à parler, Nathalie Sonnac, en France, donc regroupe France Télévisions, TF1 et M6, ou celui des chaînes anglaises avec la BBC, sont-ils assez solides pour résister à des géants mondiaux du type Apple ou Disney? Apple, c'est la première capitalisation mondiale.
Oui. Alors, on voit évidemment, si je vous répondais, mais évidemment, vous serez, j'imagine...
C'est un marché de niche, en fait, qui est visé.
Ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien qu'on est dans des économies, dans des dimensions totalement différentes. Si vous regardez la capitalisation de TF1, de M6, on est très très loin. Vous ajoutez même celle de Bertelsmann, les groupes européens, on est très très loin des Netflix, des Apple, des Amazon. Maintenant, il y a des questions qu'il faut néanmoins se poser. Est-ce que nous souhaitons que les citoyens européens mangent, pardon cette expression, mais consomment H24 des contenus américains? Non. Est-ce qu'on n'a pas des contenus, nous, à défendre? Est-ce qu'on n'a pas une localité, un localisme à défendre? Est-ce qu'on n'a pas une exception culturelle à défendre? Est-ce qu'on n'a pas aussi une vraie valeur qui soit est présente dans des entreprises qui sont beaucoup plus faibles, dans le sens de capacité financière? Non, je ne crois pas. Après, effectivement, il faut remêler tout ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible de les laisser faire n'importe comment? Non. Donc, il y a déjà eu une directive européenne qui a répondu, qui tente de se mettre d'accord, ou qui a mis autour de la table les 27 pays européens pour redéfinir le marché aujourd'hui des services de médias audiovisuels, avec des règles, avec des lois, parce qu'effectivement, ces acteurs sont extrêmement intéressants, sont extrêmement puissants. Netflix nous propose des programmes alléchants et Disney aussi. Mais il faut savoir comment fonctionnent les plateformes. Toutes ces plateformes-là ne sont pas équivalentes. Elles ont des modèles économiques qui sont distincts. Et lorsque Apple, nous vend de la télévision, il nous vend un produit d'Apple. Donc c'est pas le même modèle économique. Et attention, toutes ces plateformes sont pas comparables. On peut pas comparer Netflix, qui lui véritablement est un vendeur de contenu pour un
pur player, comme on
et
dit.
Un pur player. Voilà, je voulais éviter le terme anglo-saxon, mais vous avez raison, est un pur player avec un Apple ou un Google ou la télévision qui n'est qu'un produit d'appel. Et c'est aussi ce à quoi il faut véritablement s'interroger. Et on ne peut pas simplement aujourd'hui s'émerveiller de cette puissance financière et d'argent, parce que derrière il y a de véritables enjeux et qui sont des enjeux de formation d'opinion, des questions de société, des enjeux de régulation, des enjeux de propriété privée, de capitalisation sur sur des consommateurs qui n'ont pas forcément envie, eux non plus, de donner toute leur data.
Ces géants n'ont pas tellement l'habitude, hein, pour le dire avec euphémisme, de partager leurs revenus, comme le système de financement du cinéma français l'impose actuellement aux chaînes de télévision. Est-ce qu'il est possible, Pascal Le Chevalier, de leur tordre le bras ?
Voilà, il faut poser la question à l'administration fiscale et au gouvernement, qui d'ailleurs, dans le projet de loi de finances, prépare une taxation sur les plateformes de SVOD à hauteur de 5,15%, d'ailleurs qui va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, que ce soit les gens qui font de la vidéo physique, que les gens qui font de la télévision. Et donc forcément, c'est une volonté. Je suis assez d'accord sur le fait de dire que il faut pas laisser cette hégémonie dominer la culture française et européenne. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises privées dans le monde des médias où ce sont finalement les conseils d'administration et les patrons qui décident. Et malheureusement, le public, oui, a une forte appétence pour des belles œuvres, des belles fictions françaises. Hein. On peut citer par exemple, cette semaine, il y a Capitaine Marlowe qui fait son retour et qui va faire un carton d'audience.
Évidemment, sur France 3, mais... ça marche bien.
Voilà, exactement. Mais à côté de ça, je crois que les gens aussi qui quelque part sont en responsabilité, c'est-à-dire ces industriels qui sont là aussi pour orienter le marché, et il ne faut pas simplement s'appuyer sur le régulateur pour le faire, n'ont pas eu cette envie, ce goût du défi, et ont laissé un peu passer la vague, et aujourd'hui ils essayent de la rattraper. Et comme dirait l'autre, il faut laisser sa chance au produit, donc espérons que Salto sera un bon challenger sur ce marché-là, mais qu'il faudrait d'autres plateformes, et MyCanal également, mais MyCanal est déjà dans la place, mais il faudrait d'autres acteurs, il faudrait trouver des financements. Et là, je voudrais juste faire une parenthèse. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun start-upper, aucun créateur d'entreprise qui voudrait faire de la SVOD et qui va pouvoir lever 100 millions d'euros pour pouvoir lancer sa plateforme.
C'est trop tard, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est trop tard.
Non, c'est que
l'argent n'est pas là.
L'argent n'est pas là, exactement.
Non, mais Nathalie Sonnac, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, peut-être qu'il met tout à fait... Vous mettez ensemble en évidence le point sur quelque chose qui est essentiel, c'est que ce dont on a besoin aujourd'hui, la régulation est évidemment indispensable, la réglementation et la régulation sont évidemment indispensables, mais peut-être nécessitons aujourd'hui une politique industrielle des médias en Europe.
Oui. Que reste-t-il, après tout, aux chaînes de télévision en termes de contenu ? Le sport, l'information, Pascal Le Chevalier, ou est-ce que tout ça, ça va arriver sur les mêmes canaux ?
Alors, j'ai grand plaisir à laisser l'information aux chaînes de télévision. Par contre, sur le sport, vous avez sans doute observé qu'Amazon a déjà remporté des droits.
S'intéresse absolument aux droits sportifs.
Pour Roland-Garros.
Ouais.
Notamment Roland-Garros.
Là, je parle vraiment de la France, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, pour Roland-Garros, pour les matchs du soir qui sont diffusés à 20h30, une fois que le court central sera couvert, et je peux vous garantir que dans les 2 ou 3 prochaines années, vous allez avoir de grandes émissions sportives en live qui vont être achetées par ces acteurs de la vidéo à la demande par abonnement. Ce n'est qu'une question de temps.
Oui, le déclin et le vieillissement, très rapidement, Nathalie Sonnac, des chaînes de télévision, est-ce qu'il est inéluctable ?
Non, il n'est pas inéluctable. Il y a un point qu'il faut tout de même noter, c'est que toutes ces plateformes sont accessibles en payant.
Donc, ça, c'est peut-être un atout de la télévision
Et ça reste un atout de la télévision d'avenir.
Merci Nathalie Sonnac. Merci à vous, Pascal Le Chevalier, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination. Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Laurent Baudouin. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les Dessous de l'Infox. Bonjour chez vous. Thank you.
7 milliards de voisins.